Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un numéro hors série du magazine Beaux-Arts vient de sortir avec François Ier en couverture et tout un ensemble d'articles dédiés au choc de la Renaissance. Franck Ferrand a participé à ce hors série. Bonjour Franck.
Bonjour Omblin, bonjour à tous. Participez modestement, mais avec plaisir, puisque c'était sous la forme d'un débat avec le très savant Didier Le Fur. Toute la fin du magazine est consacrée au chef-d'œuvre de la Renaissance, au roi des monuments français, une sorte de merveille posée à l'orée des bois, le château de Chambord. Eh bien, nous allons lui consacrer cette émission. Avec le concours de son directeur général, Jean Dossonville, et l'un des contributeurs de ce numéro magnifique, une grande plume que connaissent bien nos auditeurs, Alain Vircondelet.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Florentine qui revient sur une question que vous aviez posée vous-même lors d'une récente émission.
C'est vrai que c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, poser des questions auxquelles je ne réponds pas finalement. Alors l'autre jour, Beno Graziani était dans ce studio, j'ai fait allusion à l'origine du mot paparazzi. Eh bien le moment est venu d'élucider l'énigme. Pour le moment, c'est une énigme d'une toute autre ampleur qui nous attend, c'est le mystère de Chambord.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il ne faut pas banaliser le château de Chambord. Il est essentiellement hors norme. C'est un cas unique dans l'immense collection des châteaux français et même des châteaux royaux. Un édifice plus grand, plus harmonieux, plus idéal que toutes les demeures royales connues. Un édifice beaucoup plus mystérieux aussi, car ce qu'il y a de fascinant lorsqu'on regarde, lorsqu'on découvre Chambord, c'est cette dimension quasiment idéale qu'il présente. On est en présence d'une épure architecturale, un rêve d'architecte qui aurait pris corps, qui se serait transformé dans une réalité de pierre de tuffeau et d'ardoise. Ce château unique, cette espèce de trésor architectural est peut-être et même probablement l'enfant de l'imagination de Léonard de Vinci et c'est peut-être ce qui achève de nous le rendre tellement fascinant. C'est très tôt, dès 1913, que Marcel Raymond a eu cette intuition. Il s'est dit « Chambord n'est pas l'œuvre d'un architecte comme un autre. On est au début du XVIe siècle et celui qui est capable d'imaginer une telle architecture, cette espèce de plan parfaitement idéal, cette espèce de grand quadrilatère avec ses tours d'angle, avec ce plan en forme de svastika, avec ses grands paliers en croix qui aboutissent au centre sur un escalier à double révolution, c'est-à-dire que vous avez deux escaliers circulaires qui s'emboîtent l'un dans l'autre et qui permettent à deux personnages, l'un de monter cet escalier, l'autre de le descendre sans jamais se croiser. Cette espèce de matrice architecturale ne pouvait qu'être le fruit des réflexions d'un Léonard de Vinci. Par la suite, d'autres architectes, je pense à Michel Rangard dans les années 1970 et puis jusqu'à une époque très récente, dans les années 2000, des travaux très, très récents sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, qui ont été notamment mis en ligne sur le site chambord-archeo.com. Ça, c'est tout un groupe de jeunes chercheurs qui ont travaillé sur Chambord dans les années 2010. Bref, nombreux sont ceux qui ont essayé de trouver Léonard derrière sa réalisation. Le trouver ou le retrouver, car ce qu'il y a de plus étonnant dans tout cela, c'est que le nom de Léonard n'apparaisse nulle part, ni dans les mémoires, ni dans les récits de travaux, ni dans les plans, nulle part vous n'avez ce nom de Léonard de Vinci, comme si sa signature était simplement dans la pierre, comme si elle était inscrite dans le site sans figurer dans aucune archive. C'est assez étonnant. Alors, celui qui s'est, à mon avis, penché avec le plus de fruit sur cette question, c'est un architecte qui s'appelle Alain Houdin. J'ai reçu par la poste le fruit de ses travaux il y a quelques semaines et pour tout vous dire, c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de Chambord. Il a fait un travail assez magnifique, il est revenu sur la genèse de Chambord et il a essayé de comprendre comment était née cette merveille de l'architecture. Alors au départ, on est à la rencontre de François Ier et de Léonard de Vinci. La toute première rencontre, personne n'est capable de la dater tout à fait. Il semblerait bien qu'elle intervienne à la toute fin de l'année 1515 ou au tout début de l'année 1516, lorsque François Ier rencontre le pape. Il est très possible que Léonard ait fait partie de la suite pontificale. On connaît la suite, l'invitation de François Ier, l'arrivée du maître en France. Il arrive avec trois de ses œuvres, vous savez, la Joconde, la Sainte Anne et l'Enfant et le Saint Jean-Baptiste, notamment. Il arrive avec beaucoup de plans, beaucoup de dessins dans ses malles, avec toutes sortes de projets, même si c'est un vieux monsieur. Il s'installe au manoir de Clous, qui est devenu le château du Clos-Lucé à Amboise et qui était la propriété de la mère du roi. Et du reste, c'est la mère du roi qui l'héberge, c'est elle qui le pensionne, c'est elle qui lui donne un certain nombre de commandes et notamment elle lui passe commande pour sa demeure de Romorantin. Or, c'est là sans doute, dans ce projet pour le château et pour la ville de Romorantin, que Léonard de Vinci va faire preuve de son plus grand génie urbanistique. Il va être à l'origine de tout un ensemble de révolutions qui seront plus tard celles des architectes des siècles suivants. Il est en train de débroussailler le terrain, littéralement. Il ouvre de nouvelles avenues pour les architectes du futur. Tout ça, il le fait depuis son château du Clos-Lucé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que lorsque vous comparez les plans établis pour Romorantin à ceux qu'il avait faits pour Chambord, eh bien vous voyez des similitudes tout à fait extraordinaires. Et notamment, on est dans le même plan qu'on pourrait qualifier de platonicien, c'est-à-dire un plan idéal, géométrique, sorti de l'idée pure, de l'idée essentielle et non pas de la pratique ou de l'expérimentation, ce qui là relèverait plutôt d'Aristote. Le plan platonicien de Léonard de Vinci est quasiment visible. Il se donne à voir dans la construction de Chambord avec tout de même deux bémols. D'une part, je vous l'ai dit, le nom de Léonard ne paraît nulle part. Et puis d'autre part, il y a des imperfections dans cette réalisation. La construction du château de Chambord semble n'avoir pas tout à fait respecté le plan initial. Quand a-t-on décidé de changer de projet? Quand le dessin idéal de Léonard de Vinci a-t-il dégénéré pour donner le château réel que nous connaissons? C'est la grande question qui se pose. Et la réponse que l'on apporte va déterminer toute la conception qu'on se fait du château.
Écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et on vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la construction et la conception du château de Chambord.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de la Renaissance cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et au cœur de la construction du plus vaste des châteaux de la Loire, Chambord.
À Romorantin, Louise de Savoie, la mère de François Ier, avait bien l'intention de fonder ce que nous appelons nous une ville nouvelle, Romorantin, sur la Saudre. François Ier avait lui-même passé là-bas une partie de son enfance, sa mère l'y avait souvent reçu. Depuis 1512, on a mené à Romorantin de très importants travaux et l'on peut même se demander si l'idée sous-jacente de Louise de Savoie n'était pas de créer là-bas, sur place, en quelque sorte une nouvelle capitale. Il fallait un château, il fallait une ville, il fallait de grands axes urbains, il fallait des places, il fallait des palais de ville qui soient à la mesure d'une capitale qui constitue peut-être une nouvelle Florence à la française. N'oubliez pas que Léonard de Vinci était lui-même issu de Florence et qu'il était revenu y travailler quelques années avant son exil en France. Le projet est donc lancé avec l'arrivée de Léonard en France et puis il est arrêté en 1518 ou 1519. Certains disent que c'est à cause de la peste qui était passée par là. En fait, on n'a aucune trace d'une épidémie à cette époque. L'arrêt du projet pourrait être dû à la fatigue et même à la mort de Léonard de Vinci puisqu'il va mourir au printemps de 1519. Quant à Chambord, eh bien Chambord était évidemment l'un des grands projets de François Ier. On n'est pas très loin du château de Blois, que le roi François avait déjà fait modifier dès son avènement. On est sur un gué du Cosson, c'est une rivière marécageuse qui coule parallèlement à la Loire, avec évidemment tout ce que ça peut supposer en termes d'inondations possibles, etc., de retenue d'eau nécessaire. On possédait sur place, à Chambord, une ancienne résidence des comtes de Blois, un château qui donc est démoli pour bâtir de toutes pièces une construction entièrement nouvelle. Il s'agit bien pour François, et entre nous soit dit probablement pour sa mère dans l'ombre, de marquer l'avènement de la nouvelle dynastie. François Ier est en train de créer une nouvelle branche des Valois, il est en train d'ouvrir une nouvelle page d'histoire, et bien à cette nouvelle page d'histoire, il faut son ornement, il faut son grand château, et ce sera Chambord, qui sera peut-être le plus ambitieux, le plus abouti aussi, des grands chantiers d'un règne qui en a par ailleurs connu tant et tant. Les plans de Chambord, je vous l'ai dit, obéissent à une forme très particulière. L'élévation également du château se termine par cette forêt de tourelles, de cheminées, de lucarnes, tout ça a quelque chose de très aérien, de très enlevé, de vertigineux. On a quelque chose d'ascensionnel dans cette architecture de Chambord. Léonard de Vinci, que ce soit bien clair, est mort 5 mois avant le début du chantier. Il est mort le 2 mai 1519 et le chantier commence vers la fin de l'automne. Et ce chantier va durer ensuite plus de 40 ans, puisque sous Henri II, on continue à construire Chambord. Ensuite, on l'abandonne un peu et tout cela ne sera achevé alors qu'au siècle suivant, sous Louis XIV. La construction a commencé le 6 septembre 1519 exactement. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Ben pour ça, on a les lettres patentes de François Ier. C'est une ordonnance que François va signer de son espèce de grande signature très majestueuse. Il confie les travaux à François de Pontbriand, qui est un habitué des chantiers royaux. Il a déjà travaillé sous le roi précédent, sous Louis XII. Il a travaillé à Loches, il a travaillé à Blois. Et l'ordonnance le qualifie de bon, vertueux et notable personnage, en se connaissant expérimenté et en qui avons trouvé toute sûreté et fiance, c'est-à-dire confiance, si vous voulez. On lui confie donc la superintendance d'un bel et somptueux édifice au lieu et place de Chambord. Un bel et somptueux édifice. Il y a visiblement chez François Ier et chez ceux qu'il conseille la volonté de faire quelque chose d'inédit en France. Le château le plus incroyable qu'on ait encore vu en France. Et c'est vrai que de son temps, il sera de très loin le plus grand édifice civil. C'est le plus grand édifice de la Renaissance. Alors, il y a ce problème des eaux stagnantes qui vont d'ailleurs communiquer la malaria à de nombreux ouvriers. C'est peut-être une des raisons, hein, cette malaria et cette atmosphère pestilentielle, une des raisons pour lesquelles François Ier séjournera somme toute très peu à Chambord. Il y a ce terrain marécageux qui suppose des fondations particulières, en partie assises sur celles de l'ancien château, en partie constituées de pieux de 10 mètres de haut, un peu dans le principe de Venise, hein, des pieux qu'on va enfoncer dans le sol pour solidifier les assises. On a quand même un radier, c'est-à-dire une base architecturale de ce château qui fait 5 mètres.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire du roi des monuments français, le château de Chambord avec vous, Franck Ferrand, et vous revenez sur la genèse du blanc de ce chef-d'œuvre de la Renaissance.
Ce qui rend mystérieuse l'origine du château de Chambord, c'est qu'on a complètement perdu les archives de sa construction. Toutes ces archives ont disparu au XVIIIe siècle, après le rattachement de la Chambre des Comptes de Blois à la Chambre de Paris. On a détruit tout ça tout simplement parce qu'on n'avait pas de place. Au moment où on a déménagé tous les registres de comptes, etc., il y en a beaucoup qui ont été détruits purement et simplement. Et le peu des documents qu'on a pu sauver, on l'a compilé au milieu du 19e siècle. C'est un certain nombre de spécialistes qui s'y sont collés. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que tout de même, au moment où Louis XIV lance ses grands travaux vers la fin du XVIIe siècle, on est dans les années 1680-1682, d'autres spécialistes, déjà donc au XVIIe siècle, s'étaient penchés sur l'origine du château. Et l'on avait vu un homme comme André Félibien, qui est le grand historiographe des demeures royales, s'intéresser de près à la question, aller chercher les documents disponibles, et grâce à lui, on a quand même un certain nombre d'éléments sur la manière dont le chantier a été conduit, les difficultés qui ont été rencontrées, les étapes de construction, même si malheureusement la plupart ne sont pas datées. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas être grand clerc pour comprendre qu'il y a dans cette architecture telle qu'elle figure, dans ce côté extrêmement géométrique, dans la dynamique même du plan de Chambord, dans le caractère progressif de son élévation, il y a un projet architectural majeur, il y a donc un grand cerveau derrière tout ça, et l'on pense que ce pourrait être Léonard de Vinci, puisqu'on possède des croquis qui sont antérieurs à 1516 et qui révèlent chez Léonard une espèce d'obsession pour ce plan centré. On appelle ce plan hyper géométrique, ce plan centré avec ses quatre parties qui se reproduisent, qui sont littéralement identiques aux quatre points cardinaux, puisque les tours sont au sud, à l'ouest, au nord et à l'est. On appelle ce plan centré un plan vitruvien par référence au grand architecte romain, grand polémologue et architecte romain, qui avait l'obsession de la symétrie et des proportions harmonieuses. Ces plans vitruviens, ce sont ceux, entre parenthèses, que reprend au XVIe siècle un certain Andrea Palladio lorsqu'il construit toutes ces grandes villas palladiennes extrêmement symétriques et bien proportionnées, presque à la romaine. N'oubliez pas que dans la Renaissance, il y a évidemment ce projet de renouer avec les sources antiques et notamment avec les sources romaines. Donc, il y a un grand esprit, il y a probablement Léonard de Vinci et son plan vitruvien, mais on n'en a pas la preuve, puisque encore une fois, Léonard est mort plusieurs mois avant le début du chantier. Or, à sa mort, on se demande si le chantier n'aurait pas été repris par un certain Dominique de Cortone, c'est-à-dire le Bocador, comme on l'appelait, ce Bocador qui aurait été le seul à même, en quelque sorte, de mettre en œuvre un plan aussi extraordinaire et aussi élaboré. Sauf que le plan initial, tel qu'on en a quelques rares traces, et tel qu'il apparaît par déduction dans la conception générale du château, ce plan initial, il a été par la suite modifié. À quel moment le projet initial d'une architecture idéale de Chambord a-t-il été modifié? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça a lieu dès le retour du roi après sa captivité consécutive à la défaite de Pavie? Donc le roi rentre en 1526. Est-ce que dès 1526, il modifie le projet initial? Est-ce que c'est entre 1526 et 1537? Ça, c'est ce que nous disent la majorité des historiens. Ils nous disent même que ça a eu lieu entre 1521 et 1526, pour certains. Jean-Marie Pérouse de Monclos, pour sa part, penche pour l'année 1532. Il nous dit tout simplement qu'à partir du moment où François Ier envisage de venir résider à Chambord, il lui faut des appartements plus confortables, il faut une organisation générale du château plus pratique et que le plan idéal, peut-être sorti de l'esprit de Léonard de Vinci, ne correspond plus à quelque chose de pratique, d'utile, de réalisable en quelque sorte. Et puis certains nous disent « mais non, c'est encore plus tard ». Ça, c'est la thèse d'Alain Houdin dont je vous parlais tout à l'heure. Lui parle carrément d'un assassinat de la réalisation parce qu'il nous dit que, évidemment, la réalisation telle qu'elle a lieu finalement est une défiguration du projet initial et selon lui, c'est une défiguration tardive qui pourrait prendre place entre 1538 et 1541. Comment est-ce que Alain Houdin en arrive à des dates si tardives? Eh bien, grâce au témoignage d'un témoin oculaire. Il va reprendre le récit d'un diplomate portugais qui est en voyage en France, qui s'appelle Morinche, qui témoigne de sa visite à Chambord avec toute l'ambassade du Portugal. Sa description a été découverte à Londres par un chercheur portugais et publiée en 1988. Or, le Chambord que nous décrit Morinche est un Chambord de 1540-1541. Or, il nous décrit à cette époque-là un Chambord encore idéal, qui n'a pas subi les transformations, notamment sur la tour nord du château, qui a été largement développée, qui a été déplacée, qui n'est plus tout à fait dans son axe, qui ne présente pas du tout des appartements conformes et symétriques à ceux des autres tours. Tout cela ne figure pas dans la description de Morinche. Donc, nous dit Alain Houdin, la déformation, la transformation du projet initial aurait pu arriver très tard et ne serait en quelque sorte qu'une défiguration très tardive et qui correspond à ces années un peu difficiles de la fin du règne de François Ier quand le roi, déjà malade, s'est de toute façon définitivement installé dans la région parisienne et ne vient quasiment plus sur la Loire. Il faut savoir que celle qui tenait beaucoup à ses résidences sur la Loire, c'était la reine, c'était Claude de France, et Claude de France était morte dès 1524. Après le retour du roi de captivité, la monarchie se réinstalle plutôt en région parisienne et François Ier ne vivra quasiment pas à Chambord. Et d'ailleurs, on peut dès lors se poser la question et se demander si ça valait bien la peine de défigurer le projet initial pour finalement ne même pas habiter le château. Bonjour messieurs, en votre compagnie, dans un instant, nous allons revenir sur cette question essentielle de la naissance de Chambord, mais nous reviendrons aussi sur tout le site et sur ce qu'il représente par rapport à la Renaissance.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire du château de Chambord, de sa conception, avec vous Franck Ferrand et avec vos invités, l'universitaire et écrivain Alain Vircondelet, qui a participé au hors-série de Beaux-Arts Magazine François Ier, le choc de la Renaissance, actuellement en kiosque, et Jean Dossonville, le directeur général du domaine national de Chambord.
Le château de Chambord fait partie des grands établissements publics, au même titre que le Louvre, Versailles, un certain nombre d'autres. Le président de l'établissement public est avec nous. Bonjour Jean Dossonville.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci beaucoup de venir nous parler de ce qui est quand même, on peut le dire, peut-être pas le monument préféré, mais le monument emblématique du patrimoine français.
Mais c'est en tout cas le plus grand, le plus important monument de la Renaissance civile en Europe. Et un monument méconnu parce qu'il est génial. C'est une œuvre de génie, c'est une œuvre d'art avant toute chose. Et je crois qu'il faut relire le monument à cette aune-là, aujourd'hui.
Oui. Alors, vous le ramenez à la Renaissance, on va y venir dans un instant, mais d'une façon plus générale, ce qu'il y a d'extraordinaire, pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de se rendre à Chambord, il faut le leur dire, il faut leur donner envie d'y aller, c'est qu'on a le sentiment d'une merveille, d'un gigantesque trésor posé comme ça, en pleine nature, à l'orée des bois, dans un écrin naturel extraordinaire, et il est sorti d'un seul mouvement de terre, même si je viens de raconter qu'il y avait eu plusieurs repentirs et des aller-retour. On a l'impression quand même d'un grand œuvre parfaitement cohérent.
L'effet de surprise joue à plein. Il est très romanesque, comme dans les romans de chevalerie. Et vous avez raison, l'emplacement n'est pas rationnel. Donc il veut dire quelque chose. Moi, mon rôle, il est de combattre les idées reçues. L'idée du caprice du jeune roi alors que la construction dure tout un règne, ou l'idée du rendez-vous de chasse d'un roi mégalomane, ou d'un bâtiment construit pour le gouvernement alors qu'on est à une demi-journée de cheval de la ville la plus proche. Donc si François Ier a choisi cet emplacement, c'est qu'il y avait une signification qui certainement est à la fois artistique, métaphysique, philosophique, humaniste, et on est évidemment en présence d'une des grandes œuvres de l'humanité. Je crois que c'est ça qu'il faut lire dans Chambord aujourd'hui.
un de mes amis me disait « Chambord, c'est notre Taj Mahal à nous ». Mais c'est un peu ça, en effet.
C'est le Taj Mahal, c'est Angkor Wat, c'est, comme le disait Martin Dumézil aussi, de la race de la Grande Pyramide. C'est presque plus un temple qu'un château. On croit connaître Chambord, mais Chambord, en fait, n'est pas simplement le plus beau des châteaux de la Loire ou le plus grand. C'est un monument en soi, avec quand même l'ombre portée de Léonard de Vinci. On sera toujours dans le mystère de son influence. Elle est certaine, mais jusqu'à quel degré? Et c'est pour moi simplement l'expression littérale de la Renaissance. C'est-à-dire que l'architecture de Chambord veut dire Renaissance, elle veut dire cycle perpétuel, renouveau éternel, par la rotation des tours, par l'escalier double révolution, ce plan en croix grecque, cette croix, cette svatiska en fait, qui tourne par étage et qui va de la terre vers le ciel. C'est un monument qui danse, c'est un château qui danse, Chambord.
Et il veut dire, à l'élévation, d'une
certaine
manière.
C'est un hymne à l'élévation et au renouveau perpétuel. C'est la Renaissance.
Alain Vircondelet, bonjour.
Bonjour.
Dans ce très beau hors-série du magazine Beaux-Arts, vous consacrez un... D'ailleurs, on termine la lecture par un grand dossier sur Chambord, justement. Un peu comme si Chambord était le point d'aboutissement de cette Renaissance. C'est la clé de voûte, en quelque sorte.
C'est le point d'orgue. Chambord, c'est d'abord une apparition. Il me semble que c'est de l'ordre de l'apparition. D'abord parce qu'on y arrive par ces allées cavalières et ce surgissement du château, la blancheur du château, il fait évidemment pour beaucoup, c'est-à-dire que ça rejoint aussi l'impeccabilité, l'immortalité, l'éternité, ce côté qui est presque céleste que Chambord revêt. Donc il y a toute cette notion-là de beauté, de merveille, de miracle. On a parlé tout à l'heure du Machu Picchu, je crois, ou d'autres grands...
Oui, des chefs-d'œuvre de l'aventure humaine.
De l'humanité.
Oui.
Je pense au Mont-Saint-Michel aussi, c'est de cet ordre. Je crois qu'effectivement, Chambord est d'abord l'archétype même de la Renaissance, et par la beauté même. Parce qu'il nous met en face de la beauté.
Alors, il y a cette espèce de balancement que j'ai évoqué tout à l'heure entre un plan idéal et une réalisation qui peut paraître à certains égards désordonnée, et puis cette forêt de cheminées, il faut le dire, ça aussi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus spectaculaire, somme toute, à Chambord, qui donne le sentiment global d'un désordre. Et quand on regarde bien, on se rend compte qu'au contraire, chaque chose est parfaitement à sa place, Jean Dossonville.
Chaque chose est à sa place et il faut passer beaucoup de temps pour le comprendre. On ne découvre pas Chambord sans clé. François Ier avait d'ailleurs un discours très précis. Et effectivement, on a à la fois cette notion de cité idéale dans les parties hautes du donjon. En fait, il y a une sorte de ville dans la ville. On dit aussi que Chambord serait une sorte de figuration de la Jérusalem céleste qui est décrite dans l'Apocalypse selon saint Jean. Et on décrit souvent Chambord comme la cité idéale, parce qu'il y a aussi son territoire, c'est-à-dire ce grand parc clos de murs. Alors, il n'était pas clos comme ça à l'époque de François Ier, il avait commencé sur une plus petite surface, mais il y avait, comme en Italie, chez les Médicis, l'idée d'un territoire et d'une relation entre cette terre et ce monument.
Alors, si vous le voulez bien, tout ça, depuis le début de cette émission, tout ça, c'est le Chambord idéal. Si je puis dire, c'est le Chambord sur le papier. Mais dans la pratique, ça demeure une résidence, ça demeure un lieu de chasse aussi, et peut-être surtout, n'oublions pas cette forêt giboyeuse extraordinaire. J'ai eu la chance, grâce à votre invitation, Jean Dossonville, de tourner à Chambord pour la télévision il y a presque 2 ans maintenant. C'était au moment du Brame, et je me rappelle avoir passé une nuit entière dans ce château extraordinaire à entendre les cris des serres. Le Brame, c'est tout à fait spectaculaire, c'est très impressionnant.
C'est un endroit incroyable et très charnel. Moi, j'y vis. Donc,
oui,
ce que vous dites, je le ressens vraiment dans les tripes, en fait. Et effectivement, on entend le Brame depuis même les terrasses du château. Mais un Brame sauvage, un Brame venant de la nuit des temps, c'est une forêt dans laquelle on a chassé de façon ininterrompue depuis les comtes de Blois qui ont précédé François Ier jusqu'à nos jours. C'est aussi le seul exemple d'ancien domaine royal qui soit parvenu jusqu'à nous dans son intégrité territoriale, puisque le mur de 32 km qui clôt le domaine date de 1650 ou 52 selon les attributions. Il n'y a pas de cas d'unité de propriété qui ait été préservée ainsi.
nos actuels présidents de la République ne chassent plus. Certains le regrettent, mais enfin c'est ainsi. Toujours est-il qu'il y a toujours les chasses.
Il y a toujours des chasses parce qu'il faut réguler une population sanglier. Elle peut doubler, tripler en deux ans. Nous sommes réserve nationale de chasse et de faune sauvage depuis 1947. Notre rôle dans les années 50-60, c'était de repeupler la France en gibier, qui avait été vidé de son gibier pendant l'occupation. Et puis, nous servons aujourd'hui de terrain d'études, de recherche avec un programme scientifique qui s'appelle le programme François Sommer, du nom de la fondation qui nous aide à le financer. Ça, c'est sur la modélisation démographique des espèces cerfs et sangliers. Et nous sommes engagés aussi dans une stratégie de biodiversité avec le ministère de l'Environnement. Je crois que la ministre fera des annonces bientôt sur cette question qui est très importante puisque nous sommes un territoire d'une grande quiétude et d'une grande natureté, si j'ose le dire.
À l'époque de François Ier et de son successeur, Henri II, on ne peut pas dire que Chambord soit tellement occupé. Quelle est sa destination dans le nombre des résidences royales, Alain Vircondelet ?
En fait, le château, effectivement, a été peu habité par François Ier lui-même, puisqu'on dit, la légende peut-être, dit qu'il y a passé, il y aurait passé à peu près 72 nuits. On a répertorié cela. Quant à Henri II, il y a peu vécu, il n'y a fait que passer aussi. Donc c'est un château qui a subi tout de suite après le décès d'Henri II un désert. Il y a eu 100 temps où rien ne s'est passé, où le château a été quasiment abandonné.
Et puis vint Louis XIV.
Oui, il a fallu attendre Louis XIV pour que, effectivement, Mais je crois que si Louis XIV a aimé le château, c'est parce qu'il y voyait justement une image qui pouvait lui servir à lui aussi pour Versailles. Et je pense qu'il y avait quelque chose de cette... il y a eu comme une sorte de passerelle de Louis XIV à François Ier, ou de François Ier à Louis XIV, qui faisait que Louis XIV a vu qu'il y avait quelque chose qui était déjà en place de la monarchie absolue, du droit divin, etc.
Quelle place réservez-vous dans les visites actuelles à cette époque Louis XIV du château de Chambord, Jean de Sonville ?
Il y a une stratification historique. On a 5 siècles à couvrir. On travaille actuellement sur la restauration, la restitution de la chambre de François Ier. Mais nous avons en fait 2 époques qui sont assez bien en place, qui sont des appartements délimités sous Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, qui en fait sauve Chambord parce qu'il est exilé à Blois et il s'occupe de Chambord et Louis XIV achève Chambord. Mm-hmm. Et nous avons en fait un état d'ameublement qui est de plus en plus fidèle de l'époque du maréchal de Saxe. Le maréchal de Saxe, milieu du XVIIIe siècle.
Pour l'époque de Louis XIV, ce sont de courts séjours de la cour. Oui. On vient à Chambord, pas tout à fait comme à Fontainebleau, n'exagérons pas, mais en tout cas on y vient d'abord chasser et l'on organise quelques fêtes. Il y a notamment des premières, si l'on peut dire, avec un anachronisme des pièces de Molière, je pense au Bourgeois Gentilhomme par exemple.
Il y a le Bourgeois Gentilhomme qui est créé en 1670 devant Louis XIV et qui sera joué les 22 et 23 mai prochains à Chambord dans une mise en scène par Denis Podalydès de la Comédie Française qui est très fidèle au répertoire baroque. Ça ne sera jamais que la troisième fois en 350 ans qu'on le joue. Donc réservez vos places parce que 22 et 23 mai, je ne suis pas sûr qu'on soit tous encore vivants pour le prochain passage du Bourgeois Gentilhomme à Chambord. Le Bourgeois Gentilhomme, c'est quand même, avec Cyrano de Bergerac, la pièce la plus connue du répertoire français. Et ça a été créé à Chambord.
Il y a eu aussi Monsieur de Pourceaugnac, un an auparavant, en 69. Hein.
Oui. Alors, il y a aussi, effectivement, l'empreinte du maréchal de Saxe. Donc là, on est sous le règne de Louis XV. Le maréchal de Saxe a remporté un nombre incroyable de victoires. Il a fait la gloire de ce règne. Il a fait du bien-aimé le héros de Fontenoy. Et Chambord vient récompenser, en quelque sorte, ses efforts.
On lui offre Chambord.
C'est un peu comme si, finalement, Chambord avait trouvé sa vocation seulement à partir du milieu du XIXe siècle, et surtout au XXe siècle, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu un monument à la gloire du tourisme français. Somme toute, Chambord est une épure d'architecture destinée aux visiteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ça, Jean de Sonville ?
Je comprends que vous disiez cela pour deux raisons. C'est que les romantiques ont sauvé Chambord et que votre vision, Franck Ferrand, est en fait assez romantique. Ce qui, dans mon esprit, est un compliment. Et finalement, François Ier, très romanesque, c'est une sorte de romantique avant la lettre. Donc le 19e a compris une part de Chambord. Et par ailleurs, si effectivement on se dit que Chambord est avant tout une œuvre d'art, eh bien effectivement le tourisme culturel trouve son sens à Chambord. En revanche, il y a une idée reçue qui serait que Chambord est vide. C'est une idée fausse, parce que quand le roi était là, Chambord était absolument plein. Et donc on voyait un Chambord plein. Et quand il n'était pas là, les gens ne venaient pas à Chambord. Donc ils avaient une perception de Chambord plein.
Et ça, on le voit grâce à une application qui est en cours de réalisation. Il faut le dire.
Oui, on va donner à voir un Chambord de la Renaissance avec une tablette numérique qui s'appelle Listopad, qui sera lancée le 21 juin et qui vous donne les décors en immersion, en réalité augmentée, des pièces d'il y a 5 siècles. C'est absolument passionnant, c'est scientifiquement extrêmement précis et c'est captivant.
Grâce à Listopad, si vous le voulez, nous allons replonger maintenant au cœur de la Renaissance.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur du chef-d'œuvre de la Renaissance, le château de Chambord, avec vous Franck Ferrand, et vous recevez le directeur général du domaine national de Chambord, Jean Dossonville, et l'écrivain Alain Vircondelet qui a participé, comme vous Franck Ferrand, au hors-série de Beaux-Arts Magazine, François 1er, le choc de la Renaissance.
Est-ce la spécificité du magazine Beaux-Arts, toujours est-il Alain Vircondelet, que vous consacrez beaucoup de place à l'architecture dans ce hors-série sur la Renaissance? Pas seulement à Chambord, oui. Bien entendu, on parle de Blois, de Fontainebleau, etc.
Hein. Oui. Ben, c'est-à-dire que je crois que parler de la Renaissance, c'est évidemment parler d'abord de la pierre, de l'architecture, de cette idée de la Renaissance italienne aussi, qui veut être réimplantée en France. Donc il était normal que nous donnions beaucoup de place à l'architecture, en effet.
Ce qui m'a beaucoup plu dans votre ouvrage, vous appelez ça l'art au service de la géopolitique, c'est que l'on comprend en quelque sorte quelles sont les lignes de force et d'où viennent les révolutions, je dis bien les révolutions de cette période qu'on appelle a posteriori la Renaissance.
Ce qui est intéressant dans la Renaissance française justement, ou du moins il y a plusieurs Renaissances françaises, hein, il y a une évolution, mais c'est certainement le mélange que les Français ont opéré entre les acquis de la Renaissance italienne, c'est-à-dire par exemple pour Chambord, le plan idéal d'Alberti, pensant lui-même à l'Antiquité romaine, donc il y a une sorte d'équilibre comme cela. Et puis il y a aussi tous les apports italianisants qui sont les clochetons, qui sont les coupolettes, les cheminées, enfin toute cette... Mais en même temps, cette verticalité que les Français ont voulu donner à Chambord, qui a certainement séduit là Louis XIV.
Si l'on devait résumer les grands changements géopolitiques, justement, il y a eu au milieu du XVe siècle la fin de la guerre de Cent Ans, l'effondrement de l'Empire romain d'Orient. Ça, c'est d'ailleurs ce 1453, c'est la date qui marque la fin du Moyen-Âge, symboliquement. On est donc dans un changement d'attitude de la monarchie française, qui au lieu de regarder du côté de l'Angleterre et de la Flandre, se met à regarder plutôt outre-mont, comme on disait, c'est-à-dire du côté de l'Italie. Charles VIII, Louis XII, François Ier vont mener des campagnes en Italie, où l'on découvre en même temps qu'une civilisation tout un art de vivre. Cet art de vivre qui renoue lui-même avec ce qui s'était fait de plus extraordinaire dans l'Antiquité. Il y a un retour de l'antique, avec, bien entendu, le retour aussi des textes antiques. Il y a une textualité, en quelque sorte, de la Renaissance. Et il y a, on pourrait dire, en même temps que tout cela, une double révolution mentale, avec la religion, évidemment, et la réforme, chose et un phénomène essentiel de cette Renaissance. Et puis, les grandes découvertes qui repoussent complètement les horizons dans tous les domaines et qui font advenir un nouveau monde. Alors, ça fait beaucoup de transformations. Comment les esprits de l'époque pouvaient-ils se faire à tant de changements à la fois ?
François Ier est arrivé finalement au bon moment. Hein, il est arrivé à un moment où il...
C'est pas moi qui vous dirai le contraire, j'ai écrit un livre entier pour dire ça, oui.
Non, mais il est arrivé au bon moment, c'est pas péjoratif du tout.
Non, mais un petit peu quand même.
Et effectivement, il ne pouvait qu'absorber toutes ces influences qui venaient de partout.
Et les symboliser surtout.
Et les symboliser. Et je crois que c'est, enfin, moi, ce que j'ai essayé de montrer dans ce numéro de Beaux-Arts, surtout, du moins la partie qui m'est revenue, c'était de montrer que François Ier était un extraordinaire communicant et qu'il a su au moins être cela. Hein. Beaucoup d'historiens aujourd'hui ne sont pas les hagiographes de François Ier, ou bien au contraire. Mais je crois qu'on peut lui reconnaître cette faculté qu'il a eu d'instaurer justement cette Renaissance française, de l'installer dans les esprits et de la formuler, et de formuler cette Renaissance au travers de toutes les constructions. Donc le roi bâtisseur, le roi vaillant, le roi puissant et absolu qu'il a voulu devenir, je crois qu'il est vraiment et littéralement incarné dans Chambord et aussi dans toutes les constructions qui ont fait florès autour.
Il y a trois figures qu'il faut évoquer. C'est d'abord celle de sa mère, Louise de Savoie, car on parle beaucoup depuis le début de cette émission de Léonard de Vinci. Enfin moi en tout cas j'en ai parlé tout à l'heure. Si Léonard de Vinci vient en France, s'il est pensionné, s'il est logé, si on lui donne des commandes, que je sache, c'est quand même Louise de Savoie, puisqu'à chaque fois, ça sort de sa cassette, ce sont des ordres de la mère du roi. C'est elle qui le loge, c'est elle qui lui fait travailler à son chantier de Romorantin, etc. Personnage extraordinaire, Louise de Savoie, totalement méconnu aujourd'hui.
Oui, personnage qui est à la fois autoritaire et maternant à souhait, puisque c'est elle qui a porté vraiment, véritablement François Ier au pouvoir, hein, et qui a tout fait pour qu'il soit sur le trône. Et en même temps, cette femme qui a, pendant les absences ou la captivité de François Ier, a été celle qui a dirigé le pays, finalement. Hein. Donc il y a une force chez Louise de Savoie qui, en même temps, c'est elle qui a amené la Renaissance française à son point d'apogée.
C'est pas un hasard qu'elle fût une Savoie, du reste.
Bien sûr.
Le deuxième personnage, me semble-t-il, c'est Anne de Montmorency. Malgré son prénom, c'est bien un homme dont on parle. C'est le second connétable de ce règne, Jean de Sonville, figure majeure et grand mécène, pour le coup. Aussi grand politique que grand mécène.
Oui, mais je reviens à votre première observation. François Ier est un homme qui a été très aimé des femmes et qui a beaucoup aimé les femmes aussi. Et c'est vrai que l'influence de sa mère, mais aussi de sa sœur Marguerite, est considérable. Et il est finalement le résultat de tout cela. Quand vous parliez de Chambord en disant que Chambord reflétait ce roi à la fois vaillant, chevalier, héritier du Moyen-Âge, mais ouvert à l'Italie, en fait, la construction même de Chambord, elle reflète cela, à la fois le plan du donjon, qui est le donjon de Vincennes, et en même temps l'ouverture à l'Italie. Et tout le règne de François Ier, c'est cela.
Le troisième personnage, il nous reste malheureusement peu de temps, mais c'est évidemment Charles Quint, auquel nous avions consacré ici même une émission il y a quelque temps. Personnage fascinant, passionnant, qui vient à Chambord en 1539.
En 1539, en décembre 1539, on a encore dans les murs les agrafes des bannières qu'on avait accrochées. D'ailleurs, on pourrait réaccrocher aujourd'hui des bannières pour fêter l'arrivée de Charles Quint. Charles Quint, qui est le quasi-contemporain de François Ier, qui s'est fait élire empereur en 1519, année de la construction de Chambord, contre François Ier, qui avait à un moment donné rêvé d'être empereur. En même temps, très différent, petit, plus refermé, mystique, sont deux personnages qui s'opposent et qui font l'époque. Ce qui est intéressant dans le règne de François Ier, vous parliez de la préfiguration de la monarchie absolue à Alain Vire-Condelet par rapport à Louis XIV, c'est qu'il est un moment aussi de l'affirmation nationale. Il est dans l'affirmation d'une sorte de doctrine de la souveraineté nationale. Quand on voit à Chambord la couronne de France surmontée du Saint-Empire,
ça
veut dire que...
C'est l'échec de l'Empire en 1519 et c'est le roi de France empereur en son royaume.
Exactement. Hein. Et nous sommes, nous, la France d'aujourd'hui, les héritiers de cette conception des choses.
Oui, bien sûr. Et nous sommes les héritiers d'une monarchie absolue qu'il a très largement contribué à fonder. Ça nous entraînerait peut-être un peu loin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en quelques mots, l'actualité du château de Chambord cette année, Jean de Sonville ?
Année François Ier, samedi prochain, exposition Guillaume Bruère, qui travaille sur les portraits, notamment Clouet, qu'il revisite. Donc Alain Vire-Condelet venait. 22-23 mai, Bourgeois Gentilhomme, avec Denis Podalydès. Conférence numérique le 6 juin, lancement de cette tablette numérique le 21 juin, plantation des vignes de Chambord le 12 juin, le Romorantin préphylloxérique, ça c'est un moment absolument historique, il faut être là, deux jours avant Vinexpo, le festival de Chambord du 4 au 19 juillet.
Eh bien, n'en jetez plus.
Et le 8 octobre, Franck Ferrand, vous êtes invité avec tous les biographes de François Ier, le 8 octobre, lancement des rendez-vous l'histoire de Blois et nous organisons à Chambord une table ronde des biographes et j'espère que vous nous ferez le plaisir d'être
très
présent.
Très volontiers, je serai là pour mon anniversaire. Merci beaucoup Jean de Sonville. Beaux-Arts hors série, c'est François Ier, le choc de la Renaissance, un magnifique numéro comme toujours avec Beaux-Arts. Hein. C'est-à-dire que non seulement les textes sont passionnants, mais les illustrations sont tout simplement magnifiques avec une qualité de gravure qui est celle de l'édition tout simplement. Merci beaucoup messieurs.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Lors de votre émission sur Paris Match, Franck Ferrand, vous aviez promis de revenir sur les origines du terme paparazzi. Florentine, via la page Facebook de l'émission, vous rappelle cette promesse et souhaite connaître le mystère qui se cache derrière ce mot paparazzi.
Paparazzi, c'est le pluriel, évidemment, de paparazzo. Et paparazzo, c'est le nom d'un personnage qu'on trouve dans un film de Federico Fellini. Et quel film ? Celui-ci a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1960. Je ne peux que vous l'indiquer, évidemment, c'est un merveilleux film qui s'appelle La Dolce Vita. Cette Dolce Vita, évidemment, aura été peut-être le sommet de la carrière de Fellini. Or, il y a un personnage interprété par Walter Santesso qui s'appelle Paparazzo. c'est l'espèce de photographe, toujours là, toujours sur le coup, très intrusif. Alors, l'autre jour, alors que nous parlions de cela, j'avais Beno Graziani là juste à côté de moi, à ma gauche, et Beno Graziani a dit « Mais c'est moi en fait, Paparazzo, ça vient de là !» Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, le photographe de Paris Match était très proche de Federico Fellini, qui a influencé l'autre, et d'où est venu exactement ce nom, ce patronyme de Paparazzo, ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire précisément. Sachez quand même qu'on trouvait déjà ce nom chez un écrivain anglais, qui s'appelle George Kissing, dans un roman By the Onion Sea, il y avait un personnage qui était un hôtelier calabrais et qui s'appelait Coriolano Paparazzo. Alors, pourquoi Paparazzo, Paparazzi, etc. Bien, quand on connaît un peu l'italien, ça paraît assez évident parce que ça semble être la contraction de deux mots, papatacci, ce sont les moustiques en italien, et razzo, qui est la fusée. Donc en quelque sorte, ce seraient les moustiques fusées. Voilà ce que ça pourrait vouloir dire. Et ça donne une image assez précise de ces espèces de photographes très agités, toujours sur le coup, et qui veulent s'immiscer dans l'intimité des stars.